Mon mari m'a propulsée. Il m'a propulsée devant. Très courageusement, je voulais le laisser aller devant. Il m'a dit, non, c'est toi qui commences. Alors j'y pile un quart d'heure. Avant 10, il faut que j'ai fini. Mais j'en reviens, rassurez-vous, ça va être le retour. Parce que je fonctionne avec mon mari. Et on est bénis quand on prie tous les deux, quand on intervient tous les deux. Il y a quelque chose qui se passe de bon et de puissant. Et en fait, souvent, c'est lui qui apporte un message. Et puis, bien ancré dans la parole et bien envoyé. Et puis après, moi, je surfe sur la vague. Et wouh ! avec l'Esprit du Seigneur, si possible. Alors, je ressens vraiment que l'Esprit de Dieu est ici. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas un scoop. Mais je sens vraiment qu'il veut se révéler à chacun de vous. Ceux qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, ceux qui le connaissent depuis moins longtemps, ceux qui ne le connaissent pas du tout, Dieu est là vraiment par un esprit de révélation ce matin. Et je suis contente que tout le monde soit là. L'ennemi voulait nous distraire un petit peu là tout à l'heure. Et puis, mais non. Et voilà, tous ceux qui ont besoin d'être là sont là. Antoine m'a demandé de partager un petit peu mon témoignage de médecin chrétien. Voilà. Alors, on a des clichés un petit peu. Hein. Comment c'est possible d'être médecin puis de croire en Dieu en même temps? Si, c'est possible, je vous rassure, ça se fait. Je viens d'une famille pas du tout chrétienne. Hein. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 20 ans à Lyon. Et j'ai connu mon mari à l'église de Lyon. Premièrement, je veux vraiment déclarer devant vous et devant Dieu que c'est véritablement une grâce si je suis médecin. Parce qu'en fait, j'étais bonne élève, mais j'étais pas quelqu'un de surdoué et j'avais pas particulièrement des facilités dans tous les domaines. Mais Dieu m'a bénie. Dieu m'a donné d'être travailleuse, mais Dieu m'a surtout bénie et je crois qu'il me voulait là, en fait. Il me l'a pas donné dans un paquet surprise, hein. Non, j'ai bossé, mais Dieu a mis sa grâce, il a mis son coup de pouce pour que ça passe. Vous savez, il y a un fameux concours en première année, boum, il coupe les têtes et boum. Mais merci, par la grâce de Dieu, je suis médecin en médecine générale à Mâcon. J'ai un cabinet sur le bord de la Nationale, tout près du carrefour de l'Europe. Tous les drapeaux de l'Europe là qui sont là et on tourne autour du carrefour. Le Seigneur m'a encore parlé par rapport à ça, Antoine, tu vois, et il y a quelque chose qui se fait. Alors, une des premières leçons que j'ai apprises quand j'étais médecin, bon déjà, vous savez, il y a des études très longues. Alors, on tourne dans les hôpitaux, on vit plein de choses dans les hôpitaux. J'ai vécu plein d'expériences spirituelles dans les hôpitaux, des expériences bénies, mais des expériences aussi d'attaques spirituelles. Je vous dis pas, quand vous travaillez dans un service d'urgence médicale ou chirurgicale en plein Lyon et que le patron, il est franc-maçon, youhou, je vous dis pas, c'est chaud. Mais l'Esprit du Seigneur est là. Et Fred priait avec moi quand il m'a amené pour mes gardes qui duraient 24 heures. Vous savez, 24 heures où vous y allez à fond, vous dormez quasiment pas, vous bossez. Et puis en plus, il y a l'oppression spirituelle qui est là. Il y a des gens qui, boum, se jettent d'un étage et s'écrasent en bas. Enfin, il y a du... Voilà. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le monde spirituel à ce moment-là. Mais une des premières leçons que j'ai, une fois que j'étais installée finalement en médecine générale, j'étais dans les Vosges pendant 7 ans, et au fur et à mesure que vous recevez les plaintes, les difficultés des gens, des patients, sous le plan de la santé, mais vous savez, c'est pas que la question de la santé, c'est la question de l'âme, de l'esprit, les souffrances psychiques, les souffrances émotionnelles, les difficultés familiales. Puis on dit souvent maintenant, ben, il n'y a plus de curé, donc le médecin c'est un peu le curé aussi finalement, mais surtout le pasteur. Et il y a un moment, je finissais par être très 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 chargée spirituellement et c'était lourd par moment. Puis vous savez, je suis tenue par le secret médical, donc je ne pouvais pas tout raconter à mon mari, je lui rapportais des choses, mais voilà, il fallait quand même que... Et le Seigneur m'a appris une chose, il m'a dit, quand toutes ces personnes viennent vers toi, si toi tu as simplement cette oreille attentive... Ça va, t'arrives à traduire, c'est sois béni, Chris. Je parle un peu anglais, mais pas assez bien, tu vois. Alors, quand toutes ces personnes viennent te confier leurs difficultés, leurs souffrances et tout, ne te charge pas. Aie simplement cette oreille attentive cet œil bienveillant, ce cœur pour aimer, plein de compassion. Mais quand ils viennent déposer leurs soucis, leurs fardeaux au pied de ma croix. J'ai fait « Ouf ! Seigneur, c'est pas moi la poubelle, je dois pas tout porter tout ça, c'est toi qui portes tout ça. » Ça, c'était leçon numéro un. Je peux vous dire qu'elle me sert encore tous les jours. Deuxième leçon, j'ai appris effectivement que mon cabinet médical, c'est un vrai terrain d'enjeu spirituel. Alors, je l'ai appris au fur et à mesure des années, mais on le réalise en tant que pasteur, on le réalise, chacun de vous, vous pouvez le réaliser, mais Satan, il veut voler les vies à travers la santé, à travers les souffrances émotionnelles, à travers les attaques dans l'esprit. Les trois domaines de notre être, corps, âme et esprit, Satan, il veut les attaquer, pour nous amener dans la mort et la maladie. Alors, je voudrais lire pour vous, dans Apocalypse 12, au verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance, et je le proclame avec vous maintenant, quand je le lis, je le proclame. Maintenant le salut est arrivé et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors j'ai reçu ce passage il y a quelque temps quand je priais pour venir ici. Et vraiment le Seigneur m'a parlé du témoignage, tout simplement de donner ce témoignage de ce que je vivais. Et je suis convaincue qu'en vous donnant ce témoignage, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage, l'ennemi va être vaincu dans vos vies, dans certaines de vos vies, dans la vie de mes passions. Dans la vie de mes passions, Satan est vaincu pour plein de choses, parce que je ne lui laisse pas la paix non plus. Mais dans vos vies, il y a des choses qui vont être vaincues. Celui qui vous accuse, celui qui accuse les frères, à cause de la parole du témoignage et du sang de l'agneau. Alors je pourrais vous donner beaucoup de témoignages de guérison, de consolation émotionnelle, des poids, des fardeaux qui s'en vont. Et de plus en plus, alors il y a eu des années, vous savez, je priais, puis il y a eu des moments de silence où je priais plus pour aucun patient. Et puis il y a eu des moments où, boum, de nouveau, je priais 3-4 fois dans la même journée. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais il y a des moments où c'est plus calme et des moments où ça y va à fond. Mais j'ai un ou deux témoignages que je voulais relever qui pour moi sont puissants de la part du Seigneur. Puis vous savez, je suis tenue par le secret médical. Et puis on a une déontologie. Vous savez, c'est une déontologie, c'est une règle, c'est une loi qu'on ne doit pas dépasser. Et je suis toujours un peu des fois à marcher sur des œufs comme ça. Mais le Seigneur m'a appris, m'a enseigné avec ça, jusqu'où j'ai le droit d'aller. Je suis médecin, les gens viennent voir un médecin. Et puis j'ai en face de moi des fois des gens très incrédules. J'ai beaucoup de musulmans dans ma famille, beaucoup de gens d'origine maghrébine, de turcs. Donc jusqu'où je peux aller, jusqu'où j'ai le droit d'aller. Donc il y a des fois je prends des risques. Je me suis retrouvée une fois convoquée à l'ordre des médecins, d'ailleurs par une bonne Française qui j'avais prié pour elle. Puis une fois je l'ai invitée à l'église. Après elle a fait une belle lettre à l'ordre des médecins pour m'accuser. Donc je me suis retrouvée devant la présidente de l'ordre des médecins, qui m'a fait savoir que ça se faisait pas, faut pas prier dans mon cabinet, hein. Elle me dit, elle est protestante, puis elle me dit, non, moi je mets juste la Bible sur le bord de mon bureau, ça suffit, le témoignage est suffisant. Eh bien, non. Et je m'en suis pas arrêtée là, je dis bien madame, ok, on va suivre. Oui, oui, d'accord. Et oui, ça m'empêche pas de prier quand j'ai besoin de prier. OK? Voilà. On se laisse pas intimider. Je vous rassure, hein, Satan, il veut régulièrement m'intimider. Hein, régulièrement. La crainte de l'homme, la crainte du jugement, la crainte de ma propre, j'ose dire, mon propre témoignage, hein, ma petite personne, si des fois je pouvais être atteinte par un mauvais jugement de quelqu'un. Mais voilà, j'essaye de ne pas me laisser intimider. Alors, un des témoignages qui est très très fort pour moi, parfois je peux dire, des fois une patiente qui est venue, une patiente turque justement, crise d'asthme, elle est arrivée en crise d'asthme. Vous savez, les gens, comme ça, ils ont du mal à respirer et tout. J'ai dit, allez, on y va. Elle est turque. Puis une famille assez, je soigne toute la famille, une famille assez aisée parmi ces Turcs. Donc, la crainte un petit peu du jugement par rapport à ça. J'ai dit, je m'en fiche, allez, je prie. Poum, j'ai pris autorité. La crise d'asthme, elle a arrêté sur le champ. C'est mes respirations. Ah, ça va mieux. Ah, je me sens mieux. Ah, ouais, évidemment, je comprends, hein. Voilà. Mais il y avait quelque chose de spirituel. Lundi, j'ai prié rien que trois fois ma première patiente. J'ai prié pour elle. J'ai pris autorité contre des acouphènes. Elle arrive, elle me dit, je deviens dingue. Je n'ai rien dormi cette nuit. Ça fait deux jours. Je ne dors rien. J'ai ces acouphènes. Vous savez, c'est des bruits dans l'oreille incontrôlables qui sont parfois insupportables. Mais j'en deviens dingue. J'en déprimerai. Ah, j'ai dit, d'accord. C'en est là? Allez, boum, j'ai pris autorité, elle est repartie, elle n'est plus ses acouphènes. J'ai pas mal de témoignages comme ça. Dieu m'a donné aussi la foi pour l'enfantement. Alors je le dis avec grande modestie, mais plusieurs fois j'ai prié pour des femmes qui n'arrivaient pas à enfanter, et boum, il y a des bébés qui sont arrivés. Merci Seigneur, c'est sa grâce, c'est ça. Voilà, et c'est Dieu qui fait. Hein. Franchement, moi c'est pas moi, mais Dieu m'a donné la foi pour ça. Alors un des témoignages qui est très très fort, c'était une fois, c'est un couple que je connais là où je suis à Mâcon, ça fait 20 ans que je suis installée. Avant, j'étais installée pendant 5 ans dans les Vosges, en pleine campagne, mais là ça fait 20 ans, à Mâcon exactement. Et c'est un couple de patients que je connais très bien, des gens âgés, il y a de ça au moins une dizaine d'années. J'étais en consultation avec eux, ils viennent toujours tous les deux, et j'ai la partie bureau, puis il y a une sorte de cloison, puis de l'autre côté il y a mon divan d'examen avec matériel médical, donc on est un petit peu séparés. Et d'un seul coup, dans mon esprit, alors ça venait pas de moi, hein, je peux vous le dire, dans mon esprit, je vois un gyrophare. Puis j'ai surtout vu la lumière orange et rouge, vous savez, qui tourne. Puis le Seigneur, il sait comment il nous parle. Il y en a, il va leur parler à travers Sandy, plus à travers la musique, des choses comme ça. Il y en a, il va vous parler dans un domaine de votre vie où vous êtes plus touché. Mais moi, il savait que s'il mettait un gyrophare, forcément, poum, j'étais tout de suite en alerte. Et ma tête de médecin, mon cœur de médecin, qu'est-ce qui se passe? Il y a une urgence, là, quelque chose. Mais c'était vraiment dans mon esprit. Et d'un seul coup, le mot est venu, suicide. Waouh! J'ai dit, Seigneur, je fais quoi avec ça? Mais c'était clair et net. Alors il y avait madame qui était vers mon bureau, donc je prends monsieur pour aller derrière, puis après je prends madame, et puis monsieur vient se rasseoir vers le bureau et tout. Mais là c'était monsieur, et donc je l'emmène vers mon divan d'examen, et puis pour prendre la tension, écouter le cœur et tout. Et puis cette femme, faut savoir qu'elle harcèle constamment son mari. Même devant moi, elle le houspille, elle le rabaisse, mais il est comme ça. Enfin, ça fait 20 ans que je les connais, ça fait 20 ans qu'elle le harcèle, quoi. Mais devant moi, donc des fois, je dis, c'est bon, voilà, on arrête là, et voilà, bon. Et donc, je parle à ce monsieur, je dis, monsieur, on va le dire, monsieur Intel, ça va, tout va bien, madame Lande, c'est le moral. Ah bon, mais il y a un souci et tout. Il venait de perdre la vue de façon dramatique, assez importante. Il avait eu un décollement de rétine. D'un seul coup, il ne pouvait plus conduire. Ils habitent la campagne, il ne pouvait plus conduire. Sa femme le harcelant, plus possibilité de conduire, de sortir. Ça représentait une sorte de liberté de pouvoir conduire. Il me dit, oui, madame Lande, j'ai préparé la corde dans le garage. Waouh. Et à ce moment-là, j'ai pu dire, non, ça je le refuse. Votre vie, elle est plus importante. Jésus vous aime. Et puis j'ai prié pour lui, j'ai pris autorité et tout. Et cet homme, il est toujours là. Et à chaque fois qu'il vient, sa femme continue à l'houspiller, à l'embêter, mais même en pleine consultation, elle ne peut pas s'empêcher. Et encore, il n'y a pas longtemps, il me dit, Madame Lande, je vous écoute. Et on se comprend très bien, je sais ce que ça veut dire, et lui, il sait ce que ça veut dire. Il n'y a pas longtemps, sa femme, maintenant, elle a ce qu'on appelle des troubles cognitifs, c'est-à-dire qu'elle perd un peu la tête. Ça fait deux fois qu'elle le menace avec un couteau. Une fois, elle lui a fait une planté le couteau dans la main. Donc les enfants ont pris les mesures. Maintenant, elle est en maison de retraite depuis très peu. Mais donc de nouveau, il est revenu me voir avec son fils, mais pas bien et tout. Je lui dis, alors, monsieur un tel, le moral, ça va ? Hein ? Oui, oui, madame Land. Oui, oui, madame Land. Et puis, je vous écoute. J'ai jamais oublié ce que vous m'avez dit. On se comprend, c'est ce que ça veut dire. Et il est venu avec son fils. Le soir même, je l'ai rappelé. Après mes consultations, je lui dis, alors, on va prier ensemble. Et j'ai prié avec lui. En tout cas, cet homme, il est toujours là, il ne s'est pas pendu dans son garage. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné d'arracher cette personne au suicide. Ça m'est arrivé que de mes patients se suicident et que je n'ai rien vu. Même un patient est venu un matin, le soir, l'après-midi s'est pendu, je n'avais rien vu du tout. Donc Dieu est maître, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu est Dieu. Et nous, on a nos limites aussi. Un autre témoignage, une fois, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, c'était autour de mes 40 ans, alors bon, vous faites un peu le calcul, j'en ai plus de 50, comme ça vous êtes renseignés. En 3 semaines, j'ai eu 3 crises d'étouffement dans mon cabinet médical, et 2 fois j'ai fait débarquer le SAMU. Une femme qui faisait, j'avais l'impression qu'elle faisait une embolie pulmonaire, elle était violette. Elle était là, elle étouffait. Une autre qui avait des spasmes dans la gorge, mais plus ça allait, plus elle étouffait. Une petite fille qui a failli s'étouffer avec un bonbon en 3 semaines. Mais là, je peux vous dire que c'était vraiment des attaques spirituelles. Et franchement, j'étais intimidée, j'étais pas bien. Et je me rappelle, il y en a un, c'était le jour de mes 40 ans. Un jour, j'ai Valérie qui m'appelle dans ma voiture, je reçois le coup de téléphone. Ah, Talou, bon anniversaire, c'est ton anniversaire. Puis moi, j'étais là. Mais bon, Dieu m'a appris à surmonter tout ça. Et personne n'est jamais mort dans mon cabinet, et je dis que personne ne mourra dans mon cabinet médical. Voilà, c'est dit, et Satan, il le sait. Il est dehors du cabinet, ok ? Un autre témoignage qui, pour moi, est fort, justement, mon cabinet médical, je priais pendant des années, « Seigneur, viens bénir mon cabinet, viens le remplir, viens que ta présence soit là, que les gens soient touchés et tout. » Mais il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, c'est pas seulement toi qui m'invites chez toi pour que je te bénisse dans ton cabinet, ce territoire m'appartient et j'en fais ce que je veux. Je peux vous dire que... Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que le quart d'heure est déjà quasiment terminé. Mais une fois, vous savez ce que c'est en médecine générale, on est constamment sollicité pour plein de choses. Alors, il y avait ma secrétaire qui recevait des coups de fil, qui voulait me demander quelque chose, des patients dans la salle d'attente qui s'impatientaient parce que j'étais en retard, 1 heure, 3 quarts d'heure, je ne sais plus, mais enfin, tout le monde s'énervait à regarder sa montre. Il y en a dans le hall, Madame Land, mon ordonnance de ça, puis j'ai perdu mon truc, et puis vous ne pouvez pas regarder mes analyses. J'en pouvais plus. J'en avais un avec moi dans le cabinet de consultation. La tension montait, j'étais pas bien, essayer de satisfaire tout le monde, puis j'y arrivais pas et tout. Et d'un seul coup, le Seigneur me dit, prie pour la paix de Jérusalem. Mais c'est quoi ce truc-là? Mon cabinet médical, la paix de Jérusalem, attends, tu peux me dire le rapport, là, et tout. Mais j'ai obéi. J'ai dit, Seigneur, je prie pour la paix de Jérusalem. Et instantanément, la paix est venue dans mon cabinet. Je peux vous dire que ça, c'est un témoignage qui est fort pour moi. Et même encore maintenant, quand il y a des situations de trouble ou de difficulté, je prie pour la paix de Jérusalem. Et Dieu m'a donné un cœur, ce qui fait que tous les matins, je me réveille et je prie pour la paix de Jérusalem. Et ça monte de plus en plus. Et même ça m'est arrivé pour quelqu'un qui avait, vous savez, des fois les gens ont des spasmes intestinaux, mais vraiment ça peut être organique, quoi. Hein. Mais il y a des fois c'est spirituel. Et ça m'est arrivé de prier pour la paix de Jérusalem dans le ventre de quelqu'un. Je vous garantis, et ça marche. La paix de Jérusalem, vous pouvez prier quand il y a du trouble quelque part. Voilà, que le Seigneur vous inspire, hein. Surtout que le Seigneur vous inspire. Hein. Pas d'automatisme, mais vraiment réfléchissez. Et à ce titre-là, je me réjouis vraiment que Antoine et Christiane aillent bientôt à Jérusalem, parce que je suis sûre que le Seigneur va les bénir et leur parler de manière particulière. Il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, je veux conclure sur mes défis actuels. Mes défis actuels au cabinet médical. Je dirais qu'il y en a deux. C'est, comme je vous ai expliqué, l'étroitesse dans laquelle je me trouve, parce que en même temps, le cabinet, c'est un lieu où plein de gens arrivent avec leurs soucis, leurs difficultés, ils se confient. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on a plus le cœur ouvert pour se confier, et puis on est prêt à lâcher des choses, là, tout ce que d'habitude on aurait mis devant en paravent, on est obligé de tout lâcher, parce que finalement, on est tellement mal qu'on a besoin de recevoir. Et c'est un lieu que Dieu me donne pour toucher les gens et témoigner, vous voyez. Je parle pas du Seigneur à tout le monde, hein, mais il y a des petits livrets dans la salle d'attente, les gens, la couleur est annoncée. Mais en même temps, parfois je suis là et je peux y aller, je peux pas y aller. Quand je suis là, je peux me lâcher là. Hier, je me suis lâchée là. Poum, on peut y aller, on est en terrain. Mais dans mon cabinet, que Dieu m'aide encore un petit peu par rapport à cette liberté que j'ai ou cette retenue que je dois avoir. Le deuxième défi, j'ose dire un gros morceau, c'est la maladie mentale, la maladie psychique. Alors moi, vous savez, depuis des années, on voit, j'ai travaillé en psychiatrie pendant en tant qu'externe, j'ai travaillé dans les services d'urgence où il y a des malades psychiques qui arrivent, il y a des difficultés des fois sérieuses de ce côté-là. Et puis j'ai des patients qui eux-mêmes ont des traitements psychiatriques et tout ça. Mais c'était toujours quelque chose un petit peu, on fait ce qu'il faut, on a compassion pour ces gens, mais c'était quand même toujours un petit peu extérieur. Et depuis 2-3 ans, même 4 ans, on a vécu des choses très douloureuses et très violentes dans ce domaine-là. On a été attaqués dans notre propre famille à travers plusieurs personnes dans ce domaine. Notre fille a été attaquée spirituellement dans ce domaine depuis 2 ans. Mais nous gardons la foi que Dieu la libère totalement, mais elle qui était à fond dans la parole de Dieu, a toujours parlé de la Bible avec son père, d'un seul coup, Dieu, ça n'existe plus, non mais j'y crois plus et tout, et vraiment elle a été attaquée. Mais en fait, c'est que le Seigneur veut nous amener, en tout cas moi je sais, m'amener sur ce terrain de la maladie mentale, d'aller dans les hôpitaux psychiatriques, vous savez, vous voyez ces gens sous médicaments qui sont comme ça. Seigneur, ta grâce, voilà. Donc c'est un des défis. Je vais conclure là en vous disant que moi, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est deux choses. C'est cet amour pour Israël. Il ne s'agit pas de judaïser, hein, vous savez, mais cet amour pour Israël. Quand on bénit Israël, Dieu nous bénit. Ça, c'est Genèse 12. Ceux qui vous béniront, je les bénirai. Ceux qui vous maudiront, je les maudirai. Et je vis véritablement ça. Dieu me donne un amour pour le peuple juif et pour d'encourager l'Alia, de prier pour la paix de Jérusalem. Fred va rentrer dans les détails. Mais l'autre point, c'est que vous réalisiez que Dieu vous parle, chacun dans vos situations. Moi, c'est mon cabinet médical, c'est mon petit territoire, là. Mais réalisez que Dieu vous parle. Vous avez un esprit dans lequel Dieu parle. Et moi, il m'a parlé avec un gyrophare, mais vous, il peut vous parler d'une autre manière. Et je voulais vous encourager dans la parole prophétique. Hein, je veux t'encourager, tu y vas, mais je veux encore t'encourager. S'il y a des personnes qui aspirent à ça, que Dieu vous encourage dans ce domaine. Et je veux bénir aussi au milieu de nous, je ne sais pas s'il y a des soignants particulièrement. Voilà, je veux bénir les soignants, mais tous ceux qui sont pas soignants, mais voilà, je vous encourage et je vous bénis parce que c'est des terrains de combat, vous le savez. Hein, vous voyez qu'elle faisait comme ça avec la tête plus d'une fois, j'ai dit, elle comprend. Voilà, en tout cas, je vais laisser la place à mon mari et merci Seigneur de l'opportunité que vous m'avez donnée d'être là. Et je me sens, ça fait que 2 fois que je suis là, mais je me sens déjà comme à la maison. Hein.
C'est ma voix qui est très proche de lui. Voilà. Je bénis mon frère qui est, je crois qu'il est chez Jean-Denis, c'est ça? Voilà. J'ai un frère qui est super. Ça résonne. Hein. Allez, excusez-moi, je ne me rappelle plus du truc. Voilà. Eh bien, nous sommes contents de l'accueil que vous nous avez fait depuis plusieurs moments, à Emma déjà, et puis ici dans votre église. Et on se sent, comme dit Nathalie, à la maison, je me sens chez moi. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. J'ai beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse pour vous. Voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'amour que je veux vous parler ce matin. Amen. Vous êtes très chaleureux et puis on sent la présence de Dieu. Et vraiment, c'est super, quoi. Alors, je dois enlever le Wi-Fi parce qu'il va me demander chaque fois de... Voilà, désactiver le Wi-Fi. Voilà. Et je vous donne aussi, je vous transmets les salutations de notre Église, la Maison de la Grâce. Comme le disait Antoine tout à l'heure, je suis aussi le prolongement, enfin avec Nathalie, nous sommes le prolongement de notre Église, la Maison de la Grâce, qui vous salue et qui vous font un gros hug, d'accord, à tous. Et il y en a certains qui vont venir ici, on va en faire venir quand même quelques-uns, pour vous rencontrer. Et puis, vous, parfois, vous viendrez chez nous. Hein, bientôt, les choses vont bouger avec Emma. Et donc, le Seigneur prépare nos cœurs. Ils sont prêts pour aller plus loin, pour que Mâcon se développe avec Emma et qu'on puisse avoir un réseau qui soit, un lieu d'édification et de force pour les églises aussi dans notre coin. Voilà. Amen. Alors, pour enchaîner avec Nathalie, c'est vrai que j'ai prié par rapport à l'église du phare. Ce terme-là est important, le phare. Et j'ai reçu vraiment un message sur mon cœur qui est lié à la révélation. D'accord ? À la révélation. Et Nathalie en a parlé un petit peu aussi. Le fait qu'elle reçoit, ce sont des dons spirituels que Dieu répand sur nos vies. Parole de sagesse, parole de connaissance, tout cela, c'est la révélation. Et la révélation même dépasse encore cela, parce que Dieu est un Dieu de révélation. Voilà, donc j'aimerais vous inviter pour parler de cela. Et Seigneur, je t'invite au milieu de nous. Merci parce que tu es déjà là, à travers la louange, tout ce que nous avons vécu ce matin. Et Seigneur, je t'invite et merci pour l'onction de ton Esprit Saint. Merci pour... tout ce que tu mets sur ma bouche pour partager ce message ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Et de 10 à 11. Et il nous est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. L'esprit avec un E majuscule, ça veut dire que c'est quel esprit ? C'est le Saint-Esprit. Et avec un E minuscule, c'est notre esprit. D'accord ? C'est soit notre esprit en minuscule et là, un E majuscule. Dieu nous a révélé par l'esprit, donc l'Esprit Saint, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà, donc, le Seigneur nous montre que nous avons un esprit et il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans notre esprit. Notre esprit humain a une capacité de sondage, vous voyez, sonder, chercher, dans un lieu où on ne sait pas, on n'a pas accès comme ça de manière naturelle. Quand j'ai pensé au phare, j'ai pensé aussi au puits. Vous voyez, le puits et le phare m'a fait, j'ai fait cette relation-là, non pas par rapport à l'idée, il y a la lumière, le phare qui est là, qui donne une lumière, qui guide dans les ténèbres, mais c'est aussi par rapport à cet édifice. Ça peut être aussi comme un puits qui est creusé, vous voyez, voilà. Et nous avons notre esprit, notre cœur aussi sont comme des puits, c'est-à-dire que nous avons en nous des parties qui ne sont pas sondables comme ça, de manière spontanée, voyez. Et notre esprit déjà sonde de manière humaine. Nous avons des gens, c'est des philosophes, d'accord. Ils ont un esprit humain qui a une certaine pénétration et qui arrive à comprendre des choses de l'être humain, mais ça ne va pas plus loin. Et Paul dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'âme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais l'esprit de Dieu, par contre, sonde tout. Et l'esprit de Dieu permet, justement, nous donne la capacité de sonder des choses que nous ne pouvons pas savoir rien qu'avec notre intelligence.
Et c'est là l'intérêt de la révélation. Et Dieu, quand je parle des puits, Dieu est un Dieu de révélation. Dès que les hommes ont construit des puits avec cette relation avec Dieu. Qui a construit des puits avec cette relation avec Dieu? Eh bien, on a Abraham. Hein? Abraham a creusé des puits. Et puis, vous savez qu'après après Abraham, Isaac a dû enlever, parce que les Cananéens ont rebouché les puits, et ils ont dû être débouchés, etc. Ça nous parle de ce Dieu qui est un Dieu de révélation. Et dans le puits, comme je disais tout à l'heure, dans le puits, on ne voit pas ce qu'il y a vraiment au fond, il y a de l'eau, mais au fond, après, on ne sait pas ce qu'il y a. Eh bien, Dieu, c'est comme ça, l'eau, c'est l'image de l'esprit, et l'esprit de Dieu vient et a une capacité de sondage sur des domaines dans notre vie qui sont même inconnus. Et donc, Paul dit que la capacité de l'esprit de Dieu est une capacité de révélation, des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et nous avons besoin, nous aussi, parfois nous ne savons pas peut-être ce que Dieu a prévu pour nous. Si nous restons comme ça, sans rechercher ce que Dieu a pour nous, nous ne saurons jamais peut-être vraiment ce que Dieu a pour nous. Et il ne faut pas rester attendre passivement que les choses se passent. Il faut demander à l'Esprit de Dieu d'aller sonder pour voir ce qu'il a préparé pour ceux qu'il aime. Et Dieu aussi, l'Esprit de Dieu, sonde même les profondeurs de Dieu. Et c'est incroyable de réaliser que Dieu, qui est déjà illimité, eh bien, il ne sait parler de ces profondeurs de Dieu. Ces profondeurs de Dieu, c'est aussi les desseins que Dieu a pour son peuple et a pour toi. Ces desseins, quand on parle de dessins, c'est comme des intentions, cachées. Vous voyez, cachées. C'est-à-dire que nous sommes appelés aussi à les découvrir. Dieu ne nous révèle pas nécessairement tout. Il nous révèle pas mal de choses. Nous avons sa parole de Dieu. Mais parce que nous sommes appelés à marcher par la foi, nous sommes toujours appelés à être dépendants de cette révélation. Et donc, cette dépendance fait que nous sommes appelés à rechercher même dans les profondeurs de Dieu quels sont les desseins que Dieu a pour l'île, pour le coin, etc. C'est pas écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, mais c'est dans le cœur de Dieu. Et c'est parce que dans votre recherche de l'Esprit de Dieu, et c'est pour cela que je vous parle ce matin, parce que vous êtes le phare, et je crois que le Seigneur a une volonté pour vous, parce que vous avez cette capacité déjà à recevoir, à avoir cette dimension apostolique, et j'y viens à ce niveau-là. Cette dimension apostolique aussi accroît cette notion de sondage, que l'Esprit de Dieu va sonder et il va faire, ressortir les intentions cachées que Dieu a pour vous et pour son peuple ici. Et d'ailleurs, c'est pas que pour ici, c'est pour la France et en plus, en dehors de la France. Et c'est pour ça que la révélation est une fondation essentielle aussi de l'apôtre, afin que l'évangile soit toujours le fruit d'une révélation. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'évangile, c'est pas simplement apporter à quelqu'un la révélation de Jésus-Christ, et ça c'est important, mais quand vous l'apportez, que ce soit aussi le fruit d'une révélation. Mais ça va même au-delà, et vous savez que beaucoup de gens parlent de la Bible, mais ils n'en ont pas la révélation. C'est-à-dire qu'ils vont parler de quelque chose sur un point simplement humain, ils vont dire plein de choses, mais ils n'ont pas la révélation. Et la dimension apostolique, et c'est pour ça que j'étais intéressé par Emma, c'est parce qu'il y a une dimension apostolique et les cinq ministères, plus les anciens, les diacres, d'accord, sont invités à voir cette dynamique dans la révélation. Et l'apôtre va être celui qui va avoir cette responsabilité, je dirais, ou cette capacité ou cette vocation de faire que l'évangile jaillit toujours des profondeurs de Dieu et que l'évangile est toujours nourri par les révélations de l'Esprit, qu'il est comme sortant de ces sources vitales qui vient des intentions cachées, des desseins de Dieu. Et l'évangile, c'est une puissance, et Paul le dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, d'accord ? Et c'est ça qui est important, c'est que elle est une puissance lorsque nous vivons cette révélation. Et vous pouvez parler de l'évangile, et ne pas être dans cette révélation. Connaître les desseins de Dieu, c'est être aussi être au cœur, d'accord, du projet de Dieu pour l'homme. Et pourquoi cela ? Parce que nous pouvons dévier, même avec la parole de Dieu, nous pouvons dévier de ce projet de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a ces ministères. C'est pour ça que ces ministères sont là pour redynamiser, pour toujours renouveler, en fait, le peuple de Dieu dans cette direction de la révélation. Et c'était un des soucis de Paul. Et on va lire dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, au chapitre 1. Et où on remarque que Paul essaie de, vraiment de défendre, en fait, son appel. Voyez, et il dit au verset 11, chapitre 1, verset 11, « Je vous déclare, frères, et on peut rajouter frères et sœurs d'ailleurs, hein, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Voyez, « Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Ça, peut-être, ça semble évident de dire cela, que c'est, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Mais pour lui, c'est important. Et au verset 15, il va dire, « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. » Paul témoigne de cette volonté, en tant que jeune apôtre, d'accord, de fonder vraiment son apostolat, sa révélation, une révélation venant de Jésus-Christ. Et la façon dont il parle, on a l'impression qu'il met un peu de côté les autres apôtres, d'accord, ceux de Jérusalem. Il fait volontairement, il les met volontairement à part. Et il cherche même à s'isoler pendant un temps des autres ministères et même des autres apôtres. Et quand il dit « non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père », c'est qu'il veut vraiment être le fruit d'une fondation en lui, une fondation apostolique, une fondation d'une révélation de Jésus-Christ. Et il veut vraiment que rien d'autre, d'accord, ne puisse ternir ou enlever cette fondation en lui. Et comme il dit au verset 11, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Quand vous parlez vers des gens, quand vous leur parlez, vous sentez vraiment lorsque l'Esprit de Dieu vous inspire. C'est une révélation lorsque vous ne parlez pas comme on vous a dit, il faut que tu dises ceci, il faut que tu dises cela, etc. Vous savez, une sorte de mécanisation. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous soyez comme un puits de révélation. Et lorsque vous allez parler, l'Esprit de Dieu va vous permettre de dire des choses vraiment, ciblées par rapport aux personnes auxquelles vous avez en face. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être apôtre. Mais il suffit de recevoir cet esprit de révélation qui est l'Esprit Saint, la parole de sagesse, la parole de connaissance, d'accord? Ce sont les dons de révélation. Et plus, dans cette communion avec Dieu, vous avez aussi cette capacité de donner la révélation. En plus que l'apôtre a le souci que cette révélation soit sur le plan de la parole de Dieu et qu'elle ait toujours cette dynamique. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il est important pour le Seigneur et parce que c'est le Seigneur qui a appelé les apôtres. Ce sont les apôtres du Fils, amen. C'est les apôtres de l'époux qui ont ce souci que l'épouse ne soit pas tentée et séduite par un évangile qui est influencé par l'homme. C'est-à-dire qu'il n'a plus la puissance que l'évangile devrait avoir, qu'il n'a plus la vérité que l'évangile devrait avoir. Et c'est pour ça encore que j'aime Emma, parce que c'est une dynamique apostolique. Eh bien, ils ont cette responsabilité de garder cette vérité, cette force, cette puissance qui vient de l'évangile, afin que l'évangile n'est pas perdu dans tout un tas de pensées humaines, mais qui garde cette révélation qui vient du Fils. De révéler en moi son Fils, avec un F majuscule, afin que je l'annonce parmi les païens. La révélation de Jésus-Christ, la révélation de l'évangile, qui est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais c'est une bonne nouvelle qui le reste sans cesse. Amen. C'est pas simplement la première fois lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, mais cette bonne nouvelle demeure pour l'Église sans cesse. lorsque l'Église doit croître, etc., ça reste toujours une bonne nouvelle. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, une seconde fois, « Je ne consultais ni la chair ni le sang. » Et que cela, ça peut paraître présomptueux. Ça peut paraître de dire, « Bon, écoutez, je n'ai pas besoin de vous, etc. » Mais on va voir qu'après, il n'est pas comme ça. Mais il a besoin de s'affirmer face à des apôtres. Et je peux vous dire que lorsqu'on est face à des apôtres, et vous savez, avec Antoine, il faut savoir ce qu'on pense nous-mêmes. Il faut savoir ce que nous, on est. Amen. Il a besoin de savoir, lui, qu'il a aussi une révélation. Et cette révélation va se distinguer des autres apôtres. Pourquoi ? Parce que la révélation, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu qui crée, Dieu est créateur. Et les apôtres ne vont pas tous se ressembler dans la révélation. De la même façon que les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les anciens, les diacres et les chrétiens que nous sommes tous une partie de la révélation du Seigneur. Nous n'avons pas tout, d'accord ? Chacun, nous avons une partie de cette révélation et on ne doit pas se calquer, on ne doit pas copier, ni rechercher à être comme l'autre. On doit puiser dans notre ce que Dieu nous donne à nous. Nous sommes uniques, vous êtes uniques. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que Paul le sait très bien. Et lui, qui est érudit, c'est un homme érudit dans la tradition de ses pères. C'est quelqu'un qui est rabbin de formation. Vous imaginez bien qui connaît la parole de Dieu. On ne pouvait pas parler à Paul comme si c'était le premier qui a rencontré Dieu. Non, il était nourri dans la Torah, le Tanakh, qui sont les cinq premiers livres. Et le Tanakh, c'est vraiment ce qui correspond à l'Ancien Testament. C'était quelqu'un qui maîtrisait vraiment la parole de Dieu. Mais il s'est rendu compte que cette connaissance s'appuyait sur la chair et sur le sang. Et cette érudition de la loi, d'accord, n'avait pu que l'éloigner de la vocation céleste. La révélation, alors je parlais du puits tout à l'heure, mais aussi elle vient des cieux. C'est une révélation céleste. C'est-à-dire qu'il a compris que sa connaissance, qui était vraiment forte, et que Dieu va réutiliser d'ailleurs après, ne l'avait conduit qu'à persécuter le peuple de Dieu. Qu'à persécuter des chrétiens, vous imaginez ? Donc, même avec la parole de Dieu, cet homme avait persécuté des chrétiens. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait même pas besoin, c'est pour ça que pour lui c'est important qu'il n'a pas reçu d'un homme alors qu'il a été éduqué par Gamaliel. Il a été éduqué par des hommes sur le plan de la loi. Donc il a bien voulu se séparer de toutes ces choses-là pour bien fonder la révélation dans son appel. Est-ce que vous comprenez cela ? Amen. Et quand on passe au chapitre 2 de Galates, et donc il va dire au verset 7, « Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. » On voit déjà là que Dieu pose une direction apostolique, d'accord, qui n'est pas la même. Il y a Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, d'accord, et puis Paul pour les incirconcis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ce qui se passe là, pour moi, c'est vraiment très très important. Dieu a établi des apôtres, deux apôtres, et tout d'un coup, il y en a un qui arrive, c'est Paul. Et Paul n'a pas eu besoin de vision, il n'a pas eu besoin d'ange pour lui expliquer ce que Dieu avait pour les païens. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'était dans sa vocation. Pierre a eu besoin de cela. Et vous savez, quand Dieu a révélé à Pierre, alors qu'il était en prière, il a eu cette vision. Dieu a dû donner une vision à Pierre pour lui faire comprendre. Mais tu sais, l'évangile que je t'ai donné, il n'est pas que pour les Juifs, il est aussi pour les païens. Et pour lui, c'était difficile pour que ça rentre là. Voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous les mêmes et notre vocation ne s'étend pas tous de la même façon. Et ça, c'est lié à la souveraineté de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi Dieu fait cela ? Mais ça, c'est sa souveraineté. Voyez ? Et c'est pour ça qu'il est important aussi de connaître, et je viendrai tout à l'heure, de connaître quelle est notre propre identité pour savoir là où Dieu veut que nous développons notre vocation, pour ne pas déborder sur le voisin, pour ne pas être jaloux de quelqu'un d'autre, pour ne pas vivre dans la compétition, mais pour savoir que ma place, c'est ça, et pas autre chose. Et c'est pour cela que Paul, en parlant, en partageant l'évangile, d'accord, il a dû faire quand même un exposé des évangiles, de l'évangile qu'il avait reçu, d'accord, devant ce qu'on appelait les colonnes de l'Église à l'époque. Les colonnes, c'était Jean, Pierre, Jacques, mais Jacques, le frère de Jésus, c'est pas Jacques, Jacques et Jean, vous savez, c'était Jacques, le frère de Jésus. Et donc, ces trois colonnes, donc, c'est quand même important pour lui, parce qu'ils sont représentants, d'accord, de ce que Dieu fait en ce moment-là. Et donc, ce qu'il dit, c'est que il partage cette révélation et il parle à des gens à qui Dieu a dit « Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est-à-dire que Dieu a la volonté de faire connaître son dessein, de faire connaître son plan. Voyez, Jésus avait tout dit. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il les a envoyés. Et Paul a dit aussi « C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Il va dire aussi qu'il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voyez, esprit de sagesse et de révélation. La révélation seule, d'accord, c'est comme un flot jaillissant, comme la mer qui arrive comme ça et qui va sur le phare. L'esprit de sagesse, c'est le phare. Vous voyez ? C'est un équilibre, en fait. D'accord ? C'est que la révélation est d'une telle puissance qu'on a besoin aussi de la sagesse de Dieu pour donner une direction. Vous voyez ? C'est un équilibre, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des apôtres et des prophètes. D'accord ? Parce que la révélation, c'est un flot puissant. Et les apôtres aussi donnent aussi cet édifice pour conduire cette révélation. Et c'est ce que Paul va partager, et il va partager cette révélation qui vient du Fils, et Pierre va reconnaître cette grâce, comme il va dire, cette grâce a été accordée, cette grâce qui a été accordée à Paul d'annoncer aux païens. Et Pierre dira même plus tard que Dieu a donné une grâce à Paul pour pénétrer certains passages de l'Écriture qui sont difficiles à comprendre. Et c'est là aussi qu'il faut la révélation et la sagesse. Voyez ? Et donc, Pierre reconnaît l'authenticité de l'apostolat de Paul, surtout un moment clé, et ce moment clé, nous le revivons encore maintenant. Et c'est une sorte de squelette, enfin d'arête, je sais pas comment dire le terme exact. C'est vraiment très important pour Dieu ce qui se passe. C'est lorsqu'il y a ce réseau apostolique qui se crée là entre deux, un pôle pour les Juifs et un pôle pour les païens. Voyez, ce pôle-là est très déterminant. Pourquoi? Juste à ce moment-là, Pierre se fait reprendre par Paul, juste après qu'il ait fait cet exposé sur son attitude, voyez, qui était double. Voire hypocrite, hein, faut le dire comme ça, qu'il était un coup avec les Juifs, d'une certaine manière, et après, dès que des païens, c'est-à-dire des non-Juifs, sont venus vers lui, il a changé d'attitude. Et donc, c'est là où Paul, voyez, ne fait pas cas simplement de Pierre, et je peux vous dire le respect qu'il pouvait avoir pour Pierre, mais il dit même, peu importe ce qu'ils étaient avant. C'est ça aussi la révélation, c'est avoir la capacité de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont. Avoir la capacité de s'entendre sur la vérité. Pierre a accepté cela. C'est très important. Pourquoi ? Parce que cette attitude équivoque, voyez, si elle n'est pas corrigée dès le départ, elle va rester dans la tradition de l'Église. Il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque. Il faut que la vérité soit exprimée. Pierre a eu cette capacité, lui qui avait une autorité supérieure à Paul à ce moment-là. Il a eu la capacité d'écouter Paul, d'être repris sur son attitude, et il a, comment dire, accepté cela. Ça aussi, c'est le réseau apostolique, pouvoir se dire les choses dans la vérité, dans l'amour et dans le respect. Vous voyez ? C'est aussi ne pas idéaliser. Un terme qui s'appelle apôtre, qui s'appelle prophète, etc. Nous ne devons pas idéaliser ces choses-là. voyez. Et lorsqu'on parle des apôtres comme Pierre, etc., il y a les apôtres de l'agneau que Dieu a posés. C'est vrai, Jésus les a posés, les apôtres de l'agneau. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il s'était terminé. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que c'est terminé. Et donc, ce flot de révélation qui doit passer à travers la dimension du réseau apostolique, eh bien, est appelé à être renouvelé sans cesse. Pourquoi ? Parce que les vocations qui viennent sont différentes et Dieu a toujours une révélation particulière en fonction des personnes qui sont là. Avoir la capacité de dire les choses, ce n'est pas facile. Hein ? Paul, donc, en ayant exposé son évangile, lui-même, d'accord, a reçu de la part des autres prophètes cette main d'association. Donc, il a accepté de se soumettre. Vous comprenez là ? Lui qui avait voulu ne pas aller les voir au départ, qui avait voulu fonder cette révélation à lui, et on voit cette attitude aussi, c'est qu'il a accepté de se soumettre. Il a accepté de venir et de participer à ce réseau. Ça, c'est aussi important. Comment aurait-il pu faire pour dire, bon, ben, écoutez, je m'en vais, il ne se serait pas connecté. Mais il a reçu aussi, et ce n'est pas Pierre dont l'Église catholique place comme un petit peu le pape, vous voyez. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est Pierre, effectivement, qui avait une autorité que Dieu a donnée à Pierre pour lancer l'Église. Mais cette autorité, il avait. Et Pierre avait une responsabilité aussi dans le fait d'accorder à Paul la main d'association. Il avait une responsabilité. D'ailleurs, les trois colonnes. Alors même qu'il a été repris, il a reconnu à travers Paul la révélation et la sagesse de Dieu. Et ça, je trouve que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'entre nous, n'ayons pas peur de nous dire avec vérité, avec amour, pardon, la vérité. De dire les choses, on peut toujours dire la vérité. Avec beaucoup d'attention et de cœur. Là, au moment, l'Esprit de Dieu nous le dit, on peut toujours dire la vérité. Et ça, c'est très important. Alors, est-ce que j'ai un peu de temps ou pas là ? Ça va ? OK ? Bon. Alors, pour parler de révélation, parlons par exemple du corps de Christ. Et je vais vous présenter une petite image, la première image qu'on peut voir ici, Voilà, cette première image, vous voyez, c'est notre naissance. Nous naissons, je vous fais grâce de tout ce qu'on peut dire par rapport à ça, mais nous naissons de la mort de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ meurt, vous voyez cette empreinte-là, prenez-la comme la mort de Jésus. Jésus meurt, et toi, tu nais de cette mort, et tu es une partie de Jésus. D'accord ? Et tu as une réalité comme ça, rouge là, le puzzle rouge, que tu dois apprendre à définir toi-même. Tu dois savoir que tu es né de cette mort de Jésus. Jésus-Christ est mort pour toi. Et le fait qu'il soit mort, d'accord, te fait exister. C'est de sa mort que tu existes. Ok ? Et donc tu apparais comme ça. Et tu es un puzzle, tu as une pièce de ce puzzle, voilà. Et tu existes. Je fais le lien d'ailleurs de ça, avec les tables brisées, d'accord ? Voilà. Mais je vous fais grâce de l'explication profonde, mais vous êtes le fruit de la mort de Jésus-Christ, et lorsque Jésus-Christ est mort, nous sommes tous apparus, là, comme les différentes pièces d'un puzzle. Alors là, il n'y a qu'une. Mais vous savez que les pièces d'un puzzle sont vraiment différentes, d'accord ? Plus le puzzle est grand. Et c'est un immense puzzle. Et tu es une de ces pièces. Avant même que, nous puissions grandir dans l'union de l'Église et dans l'unité de l'Église, nous avons un travail, et ça vient des ministères, de t'aider à réaliser qui tu es, ton identité, d'accord ? C'est-à-dire que tu as ces contours, peut-être, mais tu as un autre qui a d'autres contours, etc. Mais toi, tu ne peux pas rentrer dans l'union de l'Église si tu ne connais pas tes propres contours. Si tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ. Ça part de choses bien concrètes. Tu aimes le chocolat, je fais exprès de dire n'importe quoi presque. Tu aimes le chocolat, tu aimes enseigner, tu aimes jouer, tu aimes la musique, tu aimes ceci. C'est déjà là en toi, d'accord ? C'est-à-dire que souvent, Cet appel de Dieu, comme Joseph, il est déjà présent en nous. Dieu nous l'a déjà mis à nous. Mais parfois, il est resté enfoui. Je vous ai parlé du puits tout à l'heure, la révélation. Et vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour aller rechercher les desseins que Dieu a mis en vous. Et vous vous dites, mais lui, il parle comme ça, mais moi. Mais oui, mais Dieu ne t'a pas abandonné, bien sûr. L'Esprit de Dieu va t'aider et tu prends du temps avec lui pour dire, mais Seigneur, cet Esprit sonde de moi. C'est une prière que je fais souvent. D'ailleurs, vous verrez, David l'a fait. Sonde de moi, ô Dieu. Amen. Sonde de moi, ô Dieu. Va dans mes profondeurs. Le cœur a des profondeurs. Et donc, le Saint-Esprit va sonder et il va te montrer les différents contours que tu as. C'est une révélation. D'accord? Ce n'est pas simplement quelque chose d'humain. Et c'est vrai que les prophètes, lorsqu'ils peuvent vous parler, il faut le recevoir, mais ils doivent ne confirmer que ce que tu as déjà reçu.
Amen.
Pourquoi? Parce que sinon, on n'est pas là comme des automates en train de recevoir un truc. Non, non, ça, c'est pas bon, ça. Dieu vous a doué d'une intelligence. Dieu vous a doué d'un esprit de révélation. Donc, c'est pour vous aider. Les prophètes sont là pour vous aider, pour ranimer cette eau. Mais vous ne devez pas être comme des automates qui reçoivent un truc comme ça. Non, Dieu veut collaborer avec vous pour ce qu'il vous a donné une intelligence et il vous a donné un esprit de révélation. Mais il attend que toi aussi, tu te mettes en marche et que tu dises, mais Seigneur, quels sont ces contours? Et ça, c'est très important. Pour passer à l'étape suivante, et c'est l'image 2. L'image 2, c'est que toi et avec les ministères, vous travaillez à l'union de l'Église. L'union de l'Église, c'est faire en sorte que chacun, on puisse trouver notre place dans l'Église. Ce n'est pas toujours évident, d'accord? Parce que soit on ne supporte pas celui que Dieu a mis à notre côté, pour un tas de raisons, soit on n'a pas encore défini quelle est notre forme, soit il y a plein de raisons. Mais ça, c'est ce que j'appelle l'union de l'Église. Et quand je dis ça, je ne dis pas comme ça en l'air, d'accord? C'est que je l'ai reçu aussi en étudiant. Vous regardez le tabernacle, vous regardez le temple, c'est lié à mon appel. Le Seigneur m'a dit, toi, fils d'homme, montre ce temple à la maison d'Israël. C'est dans Ézéchiel, vous voyez. Le Seigneur m'a appelé et j'ai beaucoup travaillé sur les formes du temple, du tabernacle, etc. Mais j'ai dû ramener ces choses-là d'une manière très pédagogique parce que sinon vous ne pourriez pas comprendre. Mais c'est très important en fait. Pourquoi? Je vous dis ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est le fruit d'une révélation. Amen. C'est-à-dire traduire, ce qui vient de l'Ancien Testament, et c'est une des responsabilités aussi des apôtres, de traduire ce qui vient de l'Ancien Testament et le lier au Nouveau Testament. Lorsque Jésus parlait, il parlait de ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Et à l'époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il s'appuyait sur toutes les Écritures. Amen. Et donc ça, c'est la difficulté dans le réseau, ce double réseau apostolique, les juifs d'un côté et les païens, c'est de traduire cette unité. Vous voyez? C'est traduire cette unité. Ça, c'est un des défis pour l'Église. Quand je dis l'Église, vous voyez, c'est ça. C'est de traduire l'unité entre les juifs, les païens, mais qui sont associés, qui doivent former un seul corps avec Jésus-Christ. D'accord? Et donc, ça, c'est l'union de l'Église. Ce n'est pas encore l'unité. L'union de l'Église. Et cette capacité que l'on voit déjà, vous, à unir l'Église, ça vient de qui? Comment, en fait, l'union d'Église arrive à se traduire? Vous ne savez pas? On est en famille, hein, on peut parler à haute voix. Hein. Non, vous ne savez pas? Vous ne savez pas comment l'union de l'Église se fait? Hein? Est-ce qu'on peut mettre l'image 3, s'il vous plaît? Et on parle du corps du Christ? Le cœur, l'esprit. Alors, on parle du corps du Christ. Et le Seigneur m'a parlé sur le corps humain, tout simplement. Vous voyez? Dieu, tel qu'il nous a créés, peut nous parler de ce qu'est le corps du Christ. Et vous voyez, le cœur, c'est qui le cœur? Ça représente les ministères. Et les ministères, on a parlé de quoi tout à l'heure? Propulsion. Enfin, tout à l'heure, c'était hier. C'est un des éléments. Vous voyez, le cœur a un cycle cardiaque. Et notamment, il doit propulser le sang. Le sang, vous savez, le sang, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi ce que vous êtes dans votre identité. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'âme est dans le sang. Votre âme est dans votre sang. Et Dieu dit, tu ne parleras pas contre ton prochain, tu ne parleras pas contre le sang de ton prochain. Vous savez que lorsque vous parlez, vous pouvez atteindre les personnes dans leur vie, leur sang. Voyez, le sang, pour Dieu aussi, est la parole de Dieu. Dieu, Jésus par exemple, le sang, la parole de Dieu, quand je vous parle là, d'accord, l'onction saisit cela et le traduit aussi dans votre sang. Le sang est la parole de Dieu. Et le sang, c'est l'âme de Christ. Et donc, les ministères, c'est le cœur. Et c'est le cœur qui rassemble. C'est les ministères. Et Dieu a fait en sorte de les mettre à ce niveau-là, parce que c'est eux qui vont propulser le sang, c'est-à-dire la parole de Dieu, en fonction de leurs compétences, en fonction de leur vocation, dans le corps. D'accord ? Voilà, dans le corps. Dans le corps où chacun est identifié, j'ai parlé des petites pièces du puzzle tout à l'heure. Mais si vous êtes reconnu, c'est pour faire prendre conscience que vous devez prier pour les ministères, afin qu'il y ait une unité. Si le cœur ne fonctionne pas correctement, il peut pas y avoir, ils ne peuvent pas créer l'union. D'accord ? Tout part de là, en fait. Les poumons, vous l'avez dit, c'est la dimension de l'esprit. D'accord ? Le sang et l'eau, le sang qui est oxygéné. D'accord ? Mon épouse qui est dans la partie m'a bien dit de dire, attention, le sang, il est oxygéné. Effectivement, il est oxygéné. Et cela va nous permettre de comprendre qu'il ne faut pas idéaliser. Alors, on peut passer rapidement aussi l'image suivante pour montrer que ce sang, alors là, bon, c'est un petit peu ratatiné, hein, va passer dans tout le corps. Amen. Voilà. Et on passe à l'image suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est plus précis là, c'est intéressant, hein. La révélation, vous voyez, va très loin. Dieu est très précis. Amen. Alors, je vous le dis bien, je vous donne un partage. Je ne vous l'impose pas. Amen, on est bien d'accord. Vous le recevez, vous ne le recevez pas. Ce n'est pas mon problème quelque part. Mais moi, je dis ce que Dieu m'a communiqué et je veux vous communiquer par l'Esprit de Dieu cette révélation. Vous montrez que la révélation, elle est présente et vous êtes, les ministères sont le cœur. Dans Ézéchiel, il est parlé d'un temple, et dans ce temple, il y avait la maison qui correspond aux prêtres, les prêtres de la maison, et il y avait les prêtres de l'autel. Cette distinction aussi est, liée au plan de Dieu, au dessein de Dieu. Elle existe tout le temps, cette distinction. Les prêtres de la maison, ce sont ceux qui s'occupent du contenant d'une église, comme je dirais tout à l'heure. Et puis, les prêtres de l'autel, ils s'occupent du sang. Le sang, c'est la parole de Dieu, c'est le contenu. Et vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, c'était uniquement les Aaronites, c'est-à-dire que la famille d'Aaron qui ne pouvait faire que des sacrifices. Dieu a fait des choix dans sa souveraineté que nous devons connaître. On ne peut pas faire n'importe quoi quelque part, voyez ? Et nous devons savoir que Dieu a appelé des personnes pour délivrer la parole de Dieu. Ils en ont la responsabilité, voyez ? C'est pas simplement de se retrouver sur un estrade et dire la parole de Dieu. Baisser aussi en prendre la charge et la responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils devront rendre compte. Et ils seront jugés même plus sévèrement. Donc, mais ils ont cette responsabilité de délivrer le contenu, la parole de Dieu. Et je vous l'ai parlé tout à l'heure des saints ministères. Et donc, il faut qu'il y ait, vous voyez, il y a le sang bleu qui revient chargé en déchets, gaz carbonique, etc., qui a besoin d'être oxygéné. Et c'est l'Esprit de Dieu, amen, qui va nous oxygéner. Et après, ça repart. Ça va nourrir, ça va toucher, ça va restaurer. Et ainsi de suite. Ça vous permet de comprendre qu'il ne faut pas idéaliser, en fait, la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que sans cesse, c'est ça. Et ça, je vous dis, les ministères, les pasteurs en premier, ont besoin aussi d'évacuer l'amertume, d'évacuer tout ce qu'ils peuvent recevoir, parfois. on reçoit parfois des choses. Moi qui suis pasteur, à un moment donné, le Seigneur m'a fait remarquer que j'étais pas assez patient. Je réagissais mal, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et le Seigneur m'a dit, mais tu as de l'amertume, tout simplement. Hé, rappelle-toi ce que tu racontes. Allez, applique-le pour toi. Ouh, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai eu une parole de révélation. Je me suis mis à genoux et je dis, Seigneur, pardon pour l'amertume. Pourquoi l'amertume? Parce qu'en tant que pasteur, parfois nous avons des attentes. Nous avons des choses, ça ne vient pas. Et ce n'est pas de votre faute. Mais nous, nous avons une responsabilité, c'est de refléter l'image du Seigneur. Et donc, le devoir que nous avons, c'est d'évacuer tous ces déchets, systématiquement, chaque fois. D'accord? Et donc, lorsque j'ai compris cela, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, pardon pour l'amertume, etc. etc., etc. Et le Seigneur m'a enlevé l'amertume. Et chaque fois, tout de suite, il faut l'enlever. Sans cesse, voyez? Et notre rôle aussi en tant que pasteur, c'est d'enlever les déchets qui sont sur ceux qui viennent à l'église. Chez nous, à la Maison de la Grâce, nous avons une déchetterie, mais elle est plus petite que la vôtre. C'est l'église. On ne l'a pas appelée déchetterie Maison de la Grâce. Mais quand les gens viennent, d'accord, il ne faut pas oublier, et excusez-moi de le dire comme ça, c'est que parfois on vient charger, on est une déchetterie, on garde les choses en nous. Hein? Et si ça ne va pas, parfois, oh mais je ne vais pas y aller parce que ça ne va pas aujourd'hui. On veut toujours bien se présenter. Ah, moi, je vais très bien, donc je vais à l'église. Mais non, c'est faux. C'est quand tu vas pas bien qu'il faut aller. Pourquoi? Parce que là, le rôle des ministères, c'est justement de faire en sorte que tu sois réoxygéné. C'est que l'Esprit de Dieu vient et te renouvelle, te délivre, te restaure, etc. On peut passer à l'image suivante. Alors là, j'ai mis des choses, je ne vais pas rentrer en détail, mais les anciens, les cinq ministères, voyez, voilà, propulsent le sang, et ça, c'est sans cesse, c'est le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas réaliser l'importance qu'ont les ministères. Ce n'est pas parce qu'ils négligent les autres, mais plus les ministères, d'accord, sont bénis. Alors je ne dis pas, il faut leur donner ceci, non. Il faut prier pour eux, pour qu'ils soient toujours disposés à être une bénédiction. Plus il y a de ministères, plus l'Église est bénie, plus il y a des évangélistes, plus il y a des pasteurs, etc., etc., plus l'Église est bénie, plus il y a des dons de guérison, des dons de guérir, etc., plus l'Église est bénie. Tous, Paul dit, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Mais ce que tu es, d'accord, ben tu rentres dans ce circuit où le sang est constamment réoxygéné sans cesse. Et ça nous permet de ne pas idéaliser, en fait, l'Église. On peut passer la diapo suivante. C'est pour ça que lorsque le Père a une douleur dans son cœur, c'est qu'il y a un problème d'abord chez les ministères. Soit que, ou comme j'ai parlé tout à l'heure, la révélation n'est plus là, d'accord? Et cette revitalisation de la révélation qu'apporte le ministère apostolique a disparu pendant des années. Et vous savez que parfois, le pasteur est devenu le seul représentant des ministères. D'accord? Et donc, du coup, on est rentré parfois dans des situations où certaines choses que Dieu avait données à l'Église ont été perdues. Pourquoi? Parce que le pasteur ne pouvait pas tout redonner. Voyez? Et donc, le fait qu'il y ait un réseau apostolique et une dynamique d'un réseau apostolique permet à l'Église, d'accord, de garder cette vie. Mais prenons ça maintenant sur un autre plan, et je terminerai pas ça, après nous prierons. C'est que, c'est que le cœur de Dieu aussi, c'est Israël, d'accord? Par rapport aux nations, qui c'est qui a reçu la parole de Dieu? Qui c'est qui a reçu les oracles? Qui c'est qui a reçu les prophètes? C'est Israël. Et Israël, en tant que nation, est le fruit d'un miracle. Le territoire, ce n'est pas le leur, c'est celui de Dieu. Isaac n'est plus la propriété d'Abraham, c'est la propriété de Dieu. Et il lui a démontré, voyez. Et donc, nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que, si je le dis ça encore une fois, je le partage. Mais nous avons cette responsabilité de toujours créer ce lien avec Israël, d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous encourage, d'accord, que Dieu mette sur votre cœur d'avoir, je ne sais pas, voyez, Israël fête ses 70 ans. C'est extraordinaire. Un pays, personne ne veut qu'il soit là. Et ils sont là depuis 70 ans. Et maintenant, c'est la nation start-up, comme ils appellent. Voilà. Israël n'est pas parfait. Ils ont plein de choses aussi. Ils n'ont pas reçu le Messie comme nous. Mais il y a plein d'églises messianiques là-bas. Et il y a un réseau. J'ai parlé de ce réseau des païens et des juifs. Il y a quelque chose qu'il va falloir connecter là. Vous voyez? Et donc, il faut réaliser que, tout à l'heure, l'image qui montrait le cœur de Dieu, c'est que tout ce qui va contre Israël, d'accord, va nous toucher automatiquement. Toute critique, tout retrait. Vous imaginez que l'ennemi veut que Israël soit rayé de la carte. S'il est rayé de la carte, on va vous dire, mais ta Bible, ben, ça ne sert à rien, tu sais bien que ça n'a jamais existé. Ben, pff, ces histoires-là, mais tu vois bien, ça, c'est fini. Vous voyez? Nous avons un lien indissociable avec Israël. C'est notre frère aîné. Israël est mon fils, mon premier-né, dit la parole de Dieu. Et nous qui venons des nations, nous sommes le cadet. D'accord? Et donc, cette sorte de grossissement que je vous ai fait montre que dans le dessein de Dieu, d'accord, il fonctionne comme les poupées russes. Les poupées russes, vous voyez ce que c'est les poupées russes? Ce que je vous montrais pour l'Église existe aussi pour les nations. Et le cœur de Dieu, eh bien, c'est de bénir Israël. D'une manière ou d'une autre, si vous bénissez Israël, vous serez béni. Comme il s'appelle Reinhard Bonnke, vous connaissez Reinhard Bonnke? Avant de commencer ses missions, le Seigneur lui a demandé de prier pour Israël. Et lui disait, mais attends, mais je vais pour les Africains. Je veux vraiment l'Afrique pour toi, Seigneur. Prie pour Israël. Un peu comme Nathalie, voyez. C'est-à-dire, c'est honorer notre frère aîné. Parce que actuellement, si vous ne priez pas pour lui, voyez, vous êtes le poumon. Vous permettez à Israël de vivre ce qu'il vit et de faire que Dieu continue quelque chose dans ce pays. Et le fait même qu'Israël soit revenu sur sa terre, c'est le fait que Dieu aussi a expié, de sa manière, a expié, a pardonné. C'est fini. Il n'est plus, je dirais, sous cette malédiction qu'il a vécue pendant des... Voilà. Donc, je m'arrête là, en fait, dans l'idée que vous avez compris mon message. Ça part du cœur, ça touche les poumons, et ça touche le corps. Et donc, ce que j'ai à cœur, et je vais inviter Nathalie aussi avec moi, c'est d'abord de prier pour le cœur. C'est-à-dire pour les responsables de cette église-là. Je vais les bénir. Amen. Alléluia. Et après, on priera aussi pour les autres. Bon, ben, les responsables, vous pouvez venir, je vous invite. Alléluia.